On connaît tous Yves, peut-être beaucoup parmi nous ici ne savent pas qu'il a traversé cette période, on est quelques-uns à l'avoir aidé dans cette traversée du désert qui a duré des mois. Il va bien maintenant, c'est ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il va vraiment bien et il a retrouvé pleinement tous ses moyens, toutes ses forces, mais bon, il a donné en quelques mots un petit peu les signes qu'il a vécu, qui ont été des signaux d'alerte. Dans un premier temps, je voudrais juste qu'on donne quelques repères sur la dépression. D'abord, pour une idée de la fréquence. La fréquence, elle est estimée à peu près à une personne sur cinq, c'est-à-dire 20% de la population générale, qui a fait ou fera un jour une dépression dans sa vie. C'est donc très important. C'est une maladie qui est du quotidien des médecins, pratiquement, très fréquente, qui se manifeste de diverses façons, comme on va le voir un peu plus loin. Les périodes préférentielles où se déclare la dépression, c'est entre 45 et 54 ans, mais elle est possible à tout âge, y compris, je n'en parlerai pas ce soir, chez le nourrisson, chez l'enfant, chez l'adolescent. Chez l'adolescent, c'est important, c'est un problème important. Et dans ces statistiques, on repère que les femmes sont plus nombreuses, à peu près deux fois plus nombreuses que les hommes, mais il s'agit probablement d'un biais, ce qu'on appelle de déclaration, parce que les hommes ont une particularité. Et je pense qu'on est quelques-uns à nous reconnaître dans cette particularité, c'est le déni. Ne pas arriver à admettre, parce que ça remet en question chez nous des choses fondamentales, notre culture, l'idée de la virilité, l'idée de la force, de la masculinité, nous avons du mal à admettre que nous sommes dépressifs. Et lorsqu'on fait des statistiques, et bien voilà, ça ressort. Et des statistiques un petit peu plus poussées montrent que sensiblement, c'est à peu près le même pourcentage, mais ça veut dire que donc il y a à peu près 50% des hommes qui se refusent à admettre l'idée qu'ils sont dépressifs. En tout cas, c'est responsable, la dépression. Je ne reviendrai pas beaucoup dans la soirée sur cet aspect, mais c'est un des aspects majeurs. C'est responsable de 150 000 tentatives de suicide par an en France. C'est responsable, la dépression est responsable d'à peu près 12 000 décès par an, dont 1000 adolescents. Pour vous dire que la dépression est quelque chose de présent chez les jeunes, les très jeunes, et c'est important qu'on en soit conscient en tant qu'ado, simplement, on n'est pas à l'abri. Qu'on en soit conscient en tant que parent, nos enfants ne sont pas à l'abri, et chez les ados, c'est aussi, comme chez l'homme, particulièrement difficile à détecter. Le nombre de décès est actuellement un petit peu en baisse par suicide, mais vous verrez la proportion qui concerne les hommes, elle est impressionnante. On a dans la Bible, et on a voulu commencer par ça dans les petits groupes, des exemples qui sont relativement nombreux, sous réserve de termes assimilables. Le terme dépression ne figure pas dans la Bible, bien entendu. Et c'est au travers du vécu et tel que des personnages bibliques l'ont exprimé qu'on peut se dire « oui, ça ressemble à une dépression » ou en tout cas c'était un épisode peut-être très bref de dépression. C'est vrai que vous avez vu que Jésus a exprimé un moment « je suis triste jusqu'à la mort » mais c'est quelque chose qui a duré pendant quelques quarts d'heure peut-être, quelques heures et dans des circonstances bien particulières. Mais on a de nombreux exemples dans la Bible. Job, c'est une authentique dépression, on a Anne. On a David, dans des circonstances particulières de péché, de culpabilité, de meurtre commis. Il y a Élie, le prophète Élie, je ne vous l'ai pas donné à étudier. Élie, c'est une authentique dépression, c'est presque un cas d'école à étudier. Jérémie également, il y a Jonas. L'apôtre Paul fait état aussi de moments dans son ministère où il a été extrêmement découragé, abattu. Il a touché le fond, il l'exprime ainsi dans 2 Corinthiens, je crois que c'est au chapitre 4, on l'a pas vu ensemble. Bon, ceci pour dire que la Bible est d'une grande lucidité, comme d'ailleurs dans tous les autres domaines de la vie humaine. Elle est d'une grande lucidité sur le péché des individus, des humains, y compris des personnes que l'on étiquette parfois avec des guillemets « hommes de Dieu », des gens qui étaient fidèles à Dieu, qui avaient la foi, etc. Ils ont commis des choses que la Bible n'a pas voulu occulter, nous faire apparaître ces personnages comme des super-héros. Elle a été lucide aussi sur la fragilité humaine, la capacité que nous avons, parce que nous sommes ainsi faits maintenant de nous effondrer dans certaines circonstances. On sait qu'il y a de nombreux personnages historiques qui ont été dépressifs. J'en ai mis ici une petite série. Certains vous étonneront peut-être, mais plusieurs, et des, Jean-Marc m'a envoyé un lien pour me donner un peu une liste des artistes de cinéma, de la chanson, etc., qui aujourd'hui sont des dépressifs et qui l'ont dit, qui l'ont avoué pour pouvoir aider les autres. On est impressionné de voir combien c'est courant. Et il y a aussi des chrétiens de renom qui ont été des grands dépressifs. Luther en particulier a écrit plusieurs choses concernant ces épisodes où il s'effondrait littéralement, où il était atteint, y compris dans sa foi. Il y a Calvin, il y a Whitfield, Baxter, Spurgeon, qui a été un peu le prince des prédicateurs au XIXe siècle, qui était un grand dépressif et qui a beaucoup écrit à ce sujet-là. Et il a beaucoup écrit en particulier sur le soutien que son épouse lui a apporté dans ses moments dépressifs. C'est intéressant de lire un petit peu leur expérience. Donc ceci pour montrer que la dépression est finalement le lot de la nature humaine. On est tous en situation de fragilité et capables de connaître un jour. Et on ne peut pas aujourd'hui dire « Ah non, j'ai jamais été dépressif, jamais je ne le serai ». On ne peut pas le dire. Et il y a parfois des effondrements de personnes qui justement se sentent fortes, qui ont une certaine psychorigidité. Leurs effondrements sont souvent les plus graves de ces personnes-là. Donc c'est un sujet qui mérite d'être abordé en tant que chrétien avec une certaine lucidité. Alors il y aura un regard dans ce que je partage ce soir qui est à la fois médical, à la fois biblique, vous verrez un petit peu un mix des deux. Et on va commencer par définir ce qu'est la dépression. Parce que il y a des choses qui ne sont... ce que la dépression n'est pas, il y a des épisodes de vie qui ne sont pas de la dépression. La tristesse ou le coup de cafard du dimanche soir, que tout le monde connaît bien, parce qu'une nouvelle semaine va s'ouvrir, parce qu'on a vécu des choses exaltantes pendant la journée de dimanche, on a eu des amis autour de nous, on a été dans la société, etc. Et le lendemain, il faut retourner au boulot, qui ne nous passionne pas forcément toujours. Ce qu'on appelle un coup de blues, la fatigue, une petite déprime, tous ces événements-là sont des événements normaux de notre fonctionnement psychique. Ça a un caractère qui est passager, ça ne va pas durer. Ça a un impact réduit sur notre vie personnelle, ça ne va pas nous plomber au point que le coup de blues du dimanche soir nous empêche d'aller au boulot le lundi. Par contre, quelqu'un qui démarre une dépression le dimanche, il ne va pas au boulot le lundi. Ça a peu d'impact sur la vie familiale, sur la vie sociale, relationnelle, professionnelle, et ça induit une souffrance intérieure qui n'est pas du tout insupportable, c'est quelque chose de passager. Donc tout ceci n'est pas dépression. Et peut-être que certains des épisodes bibliques qu'on a évoqués n'entreraient pas sous le terme de dépression aujourd'hui. Mais on a donné une définition de la dépression qu'on va voir dans quelques instants. Le deuil n'est pas une dépression. Il est normal qu'une période de deuil, qu'on estime en général de 4 à 6 mois après la perte d'un être cher, soit marquée par de la tristesse, par des souvenirs qui reviennent, par des pleurs, par des moments d'effondrement, des moments d'insomnie, on repense, on ressasse, etc. C'est normal ça. Et ce n'est pas une dépression non plus, mais un deuil qui va se prolonger indéfiniment, dont on ne sort pas, peut devenir une dépression. On parle beaucoup de nos jours du burn-out. Le burn-out, donc, qui est un syndrome d'épuisement professionnel, n'est pas non plus au départ une dépression. Et il y a des traits un petit peu fins qui permettent de faire la distinction. Un trait en particulier, c'est que quelqu'un qui est en train de faire un burn-out, il est dans l'acharnement dans son travail. Il veut faire, mais il n'y arrive pas, il devient complètement improductif, alors que le dépressif, il est aussi improductif, mais il n'a plus la force de faire et il n'a plus envie de faire. Bon, on ne va pas détailler le burn-out. Mais un burn-out peut déboucher sur une dépression également, hein, lorsque ça se prolonge et lorsque les circonstances de retour au travail, d'amélioration des conditions de travail ne sont pas là. Tout ce qu'on appelle l'anxiété, l'angoisse, l'insomnie, le stress, les délires, les hallucinations ne sont pas à proprement parler de l'ordre de la dépression. La dépression, c'est autre chose, on va le définir, mais ça peut en faire partie, ça peut venir se surajouter. Et dans certaines maladies, certaines formes de dépression particulièrement graves, il peut y avoir de ces éléments-là, le délire et les hallucinations en particulier, on y reviendra. Alors qu'est-ce que la dépression ? On a d'abord, sur la dépression, beaucoup d'idées reçues, et surtout nous, les hommes, énormément d'idées reçues. Et c'est, si cette soirée pouvait simplement servir à détruire un certain nombre d'idées reçues, je pense que beaucoup de nos sœurs, de nos épouses, nous seraient reconnaissants de l'avoir organisée cette soirée. Le dé- Dépressif, c'est quelqu'un qui s'écoute trop. Tu t'écoutes trop, c'est pour ça que tu es dépressif. C'est pour ça que tu vas pas bien. La dépression, c'est un peu un caprice, hein. C'est pour négocier certaines choses, c'est pour faire pression dans la famille, sur le couple, sur l'autre personne du couple. La dépression, c'est se chercher des problèmes quand on n'en a pas. Ça, c'est des trucs que j'ai entendus. Tout ce que je vous dis là, c'est des trucs qu'on entend régulièrement lorsque des gens, alors pas forcément des chrétiens, mais y compris des chrétiens, parfois viennent nous parler de leur dépression. Dire « mon mari, voilà ce qu'il me dit » en particulier. C'est souvent dans ce sens-là, je réinsiste. La dépression, c'est un signe de faiblesse. Ouais, tu déprimes, ok, d'accord, mais bon, allez, remue-toi un peu, donne-toi des coups de pied aux fesses, tu vas voir, ça va aller mieux. La dépression, c'est un manque de volonté. Ouais, si tu voulais, tu pourrais en sortir. D'accord ? On va en parler un petit peu plus loin. La dépression, c'est pas une vraie maladie. Alors, c'est vrai que c'est pas une maladie qui se lit sur le visage, ou dans une prise de sang, ou au travers d'une radio. C'est pas quelque chose qui se constate de cette façon. C'est une maladie du psychisme. C'est une maladie qui va s'exprimer par des symptômes de vécu psychique. Mais la dépression, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est une authentique maladie. On y reviendra tout à l'heure quand on verra les causes dans un deuxième temps de prise de parole. La dépression, c'est dans la tête. Bien sûr que la dépression, c'est dans la tête. Mais c'est pas parce que c'est dans la tête que ça fait pas partie de nous-mêmes, au contraire. Donc ça impacte considérablement notre santé, notre vécu, notre souffrance. Dépressif, alors que tu as tout pour être heureux. On peut très bien avoir tout l'argent du monde, tout le confort, tout le bien-être, tout l'amour de son mari, tout l'amour de ses enfants qui vont bien, qui font de belles études, qui posent aucun problème, et faire une profonde dépression. C'est ça le paradoxe, souvent, et qui fait qu'il y a le plus d'incompréhension. Des a priori, des idées reçues, qui touchent peut-être plutôt les gens qui sont dans la foi, qui sont chrétiens. Si tu as la foi, si tu es chrétien, tu ne peux pas déprimer. À la limite, tu n'as pas le droit de déprimer. Il n'y a pas de plus grand mensonge que celui-ci. On en reparlera un petit peu. La dépression est un péché. Ou c'est parce qu'il y a un péché dans ta vie que la dépression survient. Alors on a vu tout à l'heure l'exemple de David. Effectivement, le roi David, il a connu un épisode de dépression après qu'il ait péché, qu'il ait pris conscience de ce péché et qu'il n'ait pas encore trouvé le moyen de gérer ce péché devant Dieu, retrouver la communion avec lui. Et ensuite, vous avez vu comment il en est sorti en étudiant le texte, par la confession, par des psaumes qu'il a écrits. Mais c'est une situation qui est une situation qui peut exister, effectivement. Il peut y avoir un syndrome dépressif parce qu'il y a un poids de culpabilité qui pèse sur nous et que nous n'arrivons pas à régler. Il peut y avoir des conflits relationnels que nous n'arrivons pas à régler qui peuvent nous conduire à la dépression. Mais ce n'est pas la règle générale. Et la dépression, le fait d'être dépressif soi-même, et on l'a vu avec des personnages bibliques qui ont connu cette expérience de vie, et avec des chrétiens de renom qui ont connu aussi cela pendant tout au long de leur vie, plusieurs fois, par des crises successives, la dépression n'est pas en soi un péché. C'est une expression de notre faiblesse humaine, et il y a besoin de retrouver des ressources, pour une bonne part auprès de Dieu, bien entendu, mais la dépression en tant que telle n'est pas un péché. Voilà un petit peu toutes ces idées reçues. Alors, la dépression, qu'est-ce que c'est ? Alors, il va y avoir une liste, vous allez voir, un petit peu de symptômes qui nous permettent de reconnaître la dépression et qui touchent à différents pans de notre fonctionnement psychique. Dans le fonctionnement psychique, on appelle l'humeur, c'est-à-dire c'est le fait « je suis heureux, je suis paisible » ou « je ne suis pas heureux, je suis triste, je suis effondré ». Et l'humeur est un des premiers pans qui est touché, à savoir, ça se manifeste par de la tristesse, par des pleurs, par une perte d'espoir, par un esprit pessimiste, par des pensées négatives, tout est vu en noir, et par une souffrance morale. C'est-à-dire que la dépression, en tant que telle, génère une souffrance profonde chez l'individu. Il est peiné de se voir dans cet état-là, de se voir triste, d'autant plus peiné que parfois il n'y a pas de cause, comme on l'a dit tout à l'heure. La deuxième chose, ça touche à la volonté, à l'élan vital, et il y a une perte de volonté. Les gens disent « mais je voudrais bien recommencer à m'occuper de la maison, par exemple, ou retourner au boulot, je voudrais bien, mais je ne peux pas, je n'ai pas la force, je me sens comme plombé, comme si on m'avait mis un boulet au pied, je ne peux pas entreprendre, je n'arrive pas à prendre de décision. Et si je n'arrive pas à prendre des décisions, il est très dangereux de prendre des décisions précisément dans un moment dépressif. Ça, c'est souvent quelque chose que je conseille aux gens. Surtout, ne prenez pas de décisions dans cette période parce qu'elles sont complètement parasitées par l'état dépressif. Il y a une perte d'envie de vivre qui peut aller jusqu'à, bien entendu, l'envie de mourir en contrepartie. Et c'est donc le suicide dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a une difficulté à entrer en relation. Toute relation avec qui que ce soit, y compris les plus bienveillants, devient pesante. On n'a plus envie de voir personne, on a envie d'être seul, tout fermé, d'être dans le noir, de ne plus rien entendre, d'être coupé du monde. Il y a une perte d'intérêt. Plus rien ne devient intéressant. Et il y a une espèce d'indifférence. Je me souviens d'une jeune femme chrétienne que j'ai suivie pendant longtemps, qui maintenant est en train de peu à peu sortir, mais c'est une dépression de plusieurs années, qui me disait, mais on peut m'annoncer le plus grand malheur, j'ai comme une anesthésie, elle me disait en moi. Je n'ai plus d'émotion. Je n'ai plus de peine, je n'arrive même plus à avoir de la peine pour des gens qui, en face de moi, souffrent des situations authentiques, un cancer, une chose comme ça, je n'ai plus rien, je ne ressens plus rien. Les événements les plus graves qu'elle voit aux informations, ça ne me touche pas. Il y a une perte des émotions, ni joie, et parfois ni tristesse, je veux dire, partagée, ni empathie. Il y a une tristesse intérieure, personnelle, mais pas de tristesse pour les autres. Il y a une perte de plaisir, plus rien ne fait plaisir. Dire on va inviter quelqu'un, on va sortir, on va aller à une fête, on va aller prendre de l'air à la campagne, non, rien ne me fait plaisir. Et ça aboutit finalement au repli, à l'isolement progressif. Donc voilà un autre de ces symptômes. On fera à la fin un petit peu le bilan pour dire à quoi on va reconnaître tout ça. Parce que vous allez me dire, ça fait beaucoup pour la même personne. Il y a des personnes qui ont effectivement toute la liste là. Il y a un ralentissement intellectuel, une perte d'attention, une perte de concentration et de mémoire. Parmi les gens qui se plaignent de mémoire, et qui souvent ont leur plus grande phobie, c'est de dire « je commence une maladie d'Alzheimer », la plupart du temps, il s'agit d'un état dépressif, en fait, qui est en train de débuter. Perte de mémoire, on n'arrive plus à mémoriser les choses, on ne se souvient plus où on pose les choses, on a une perte de souvenirs, et ça se manifeste en particulier dans le discours. Les gens commencent sur un sujet, puis disent « ah, où j'en étais ?» Ils reviennent en arrière, comme je ne me souviens plus ce que je vous ai dit. Et il y a une diminution des gestes, les gens deviennent plutôt figés, ça se reconnaît souvent dès le premier contact. Lorsqu'on voit l'individu, le visage est figé également, il n'y a plus d'expression. Et ce ralentissement intellectuel, vous verrez, il a un impact considérable sur la vie spirituelle des personnes. Et puis, il y a ce grand symptôme qui est la fatigue. Le propre des dépressifs, et c'est quasiment constant, c'est une grande fatigue. Et une fatigue inexpliquée, et une fatigue particulière qui est la fatigue non pas d'une belle journée bien remplie où on s'est donné à fond, donc la fatigue du soir, mais plutôt une fatigue du matin. Dès le matin, on est fatigué, on n'a pas la force et l'élan vital pour sortir du lit et partir au boulot, engager la journée. Et puis il y a des pensées qui touchent à soi-même sur l'évaluation de soi, c'est la dévalorisation, la culpabilité, le sentiment d'indignité, d'incurabilité, d'inutilité et la souffrance morale une deuxième fois parce que tout cela, je suis nul, je suis qu'un boulet pour ma famille, je ne sers à rien, je ne suis pas digne de toute façon de que vous vous préoccupiez de moi, regardez ce que je représente pour vous dans la famille, de toute façon je ne guérirai jamais, il n'y a pas de perte, il n'y a pas d'espoir, de perspective de guérir. Et c'est lorsque ces symptômes sont les plus présents qui a le plus grand risque de suicide, parce qu'on se dit que je suis une personne de trop sur la Terre, sur l'humanité, dans ma famille, et à ce moment-là, il y a un risque élevé de suicide. Je ne reviendrai pas sur le suicide, je vais dire deux mots ici. Lorsqu'une personne dit qu'elle pense à la mort, qu'elle veut mourir, c'est à prendre au sérieux. On a toujours, là encore, ça fait partie des idées reçues, ouais, c'est du chantage, ça c'est pour qu'on s'occupe d'elle, pour attirer l'attention, etc. C'est vrai qu'il y a parfois des tentatives de suicide qui correspondent à ça. Lorsqu'une personne parle de suicide, il faut l'entendre et le prendre au sérieux a priori. Et là, les éléments qu'il faut rechercher, et n'importe qui peut les demander, ces éléments-là, c'est est-ce que tu as fait des projets précis pour y venir au suicide ? Et lorsqu'une personne vous dit « Oui, l'autre jour, en me promenant, j'ai repéré un pont, il y a la rivière en dessous, Je saute très bien, je me suis d'ailleurs attardé un moment, je me demandais si je n'allais pas sauter. Alors là, immense danger. Lorsqu'éventuellement il a été laissé des consignes, voilà, écoute, si vraiment je venais en arriver là, voilà, les enfants, je m'en suis occupé. J'ai déjà prévenu qui pourrait les prendre en charge, etc. Là, immense danger. Lorsqu'il y a des écrits qui sont laissés, éventuellement, là encore, immense danger. Et le suicide est on appelle nous la crise suicidaire, les médecins, c'est un élément à prendre extrêmement au sérieux et doit faire obligatoirement consulter un médecin d'urgence, parce que le passage à l'acte est totalement imprévisible. Je ne veux pas vous raconter des histoires morbides, on m'en a raconté une vécue par une de mes patientes la semaine dernière, pas pour elle-même mais pour son beau-frère, qui a réussi son suicide. C'est totalement imprévisible et ça peut arriver comme ça, comme un coup de foudre dans un ciel sans nuages. Je ne reviendrai pas sur cette question du suicide. S'il y a des questions sur un chrétien peut-il se suicider, je voudrais bien y répondre tout à l'heure. Je ne vous la souffle pas spécifiquement maintenant, mais si vraiment elle vient. Et là, il y a encore, et vous reconnaissez là, dans tout ce que j'énumère, des mots que l'on a vus dans les textes bibliques, d'accord ? Il y a un retentissement physique. Le corps est atteint dans son ressenti. Le sommeil est atteint, il y a des insomnies, le sommeil n'est plus réparateur, il ne restaure plus les forces nécessaires pour démarrer une nouvelle journée. Et il y a une insomnie particulière aux dépressifs, c'est l'insomnie, ce qu'on appelle, de deuxième partie de nuit. C'est-à-dire qu'il arrive à s'endormir, mais à 2h, 3h du matin, il se réveille et allez, ça démarre. Et il commence à brasser des idées noires, à ressasser des idées pessimistes. Il y a un impact sur l'appétit, ça peut être en plus ou en moins. Il y a un impact fort sur la sexualité. C'est une question qui n'est pas toujours facile à poser en consultation, mais c'est une question qui, pour moi, a une valeur, enfin la réponse a une valeur vraiment très significative pour le diagnostic de dépression. Lorsqu'on demande est-ce que vous avez encore envie d'avoir des relations sexuelles, et quand on vous répond non, plus du tout, ça ne dit vraiment plus rien, c'est une corvée. Là, c'est vraiment souvent un signe de dépression véritablement. Aussi bien pour l'homme que pour la femme, mais peut-être encore plus particulièrement pour l'homme. Il y a l'apparition de douleurs chroniques diverses, et on appelle parfois, je mets le qualificatif de dépression masquée, à des personnes qui vont revenir en consultation, qui font souvent le tour de 10-15 médecins, qui ont énormément d'examens, et qui en fait consultent pour des douleurs qui ne sont que l'expression de leur dépression, d'une dépression. Et on traite la dépression et on voit la douleur complètement disparaître. C'est quelque chose que nous connaissons très très fréquemment dans les cabinets médicaux. On appelle ça des somatisations. Alors c'est des douleurs intestinales, c'est des douleurs articulaires, c'est une fatigue chronique, c'est ce qu'on appelle aussi la fibromyalgie, une douleur partout et n'importe où, avec aucun signe, ni aux radios, ni aux examens biologiques. Et cela est expliqué par l'état dépressif en dessous. Il peut se rajouter de l'anxiété, de l'angoisse. L'anxiété, c'est quoi? C'est l'anticipation craintive des événements à venir. L'anxiété, je suis anxieux pour ma journée de demain, parce que j'ai peur qu'il m'arrive une tuile demain, j'ai peur que je n'arrive pas à faire face, etc. Ça vient se rajouter souvent dans la dépression. Le risque suicidaire, je viens d'en parler. Regardez cette statistique, 70% des suicidés sont en fait dépressifs lorsqu'ils passent à l'acte. Et chez l'homme en particulier, il y a l'association à des abus. L'homme est l'adolescent. Alcool, médicaments, substances interdites, des drogues et des actes parfois de violence. Alors, n'est pas dépressif une personne qui a simplement une nuit, une insomnie. Ne rentrez pas chez vous avec une introspection et demain vous déclarez tous que vous êtes dépressif. On serait passé à côté du problème. Mais on considère qu'il faut qu'il y ait au moins 4 de tous ces signes qu'on a évoqués ici, et vous voyez qu'on y est très vite aux 4, et qui sont plus permanents que simplement le coup de blues dont on parlait tout à l'heure. Pendant au moins 15 jours, il faut qu'il soit présent presque tous les jours. Et les gens qui sont dépressifs, quand vous les interrogez, ils vont vous dire « oui, c'est tous les jours comme ça, c'est tous les jours la galère, j'ai pas envie de me lever, etc. » Je termine un peu avant qu'on passe à autre chose. L'autre temps du repas, et je reviendrai après pour la suite, c'est que de la dépression, il y a un impact familial qui est important. Vous en doutez bien qu'une personne qui est dans cet état-là, ça rejaillit énormément sur la famille. Et c'est important de prendre en considération les tendances de l'homme dépressif. Qu'est-ce qui le marque plus spécifiquement? Les symptômes précédemment décrits étaient assez généraux. Ce qui marque l'homme, c'est le changement de caractère. Plutôt que l'abattement, les pleurs, la tristesse, parce que ça correspond tellement peu aux stéréotypes masculins que nous avons en tête, sont pas très fréquents. Ils sont parfois là présents. Mais c'est le changement de caractère avec une irritabilité, de l'agressivité, une impulsivité, des colères et un caractère qui n'était pas comme ça avant, mais qui devient d'un coup différent de l'habitude. La perte de confiance en soi, une fuite dans le travail. Une femme aura plus de mal à démarrer sa journée, à aller au travail. Un homme va peut-être, au contraire, fuir dans le travail, dans une fuite éperdue, avec peu de productivité, peu de résultats. Un manque d'expression de son amour, qui parfois peuvent amener à des remises en question, à des interrogations, surtout lorsqu'il y a une diminution du désir sexuel en plus. Bien entendu, vous voyez tout ce que ça peut suggérer chez l'épouse. Oui, tu as quelqu'un, tu n'es plus comme avant. L'abus d'alcool, la perte de désir sexuel que j'ai mentionné. Qu'est-ce qui marque l'homme également? L'homme est particulièrement marqué, et ça explique les statistiques, par le refus de reconnaître sa maladie. On appelle ça le déni aussi. Le refus de consulter. Il veut s'en sortir seul. Et souvent, il est un peu comme un noyé qui se débat, et plus il se débat, plus il s'enfonce, parce qu'il ne veut pas admettre qu'il est dépressif et qu'il a besoin d'un traitement, qu'il a besoin d'être aidé. Et ça se traduira aussi, lorsque le traitement est donné, par un mauvais suivi de son traitement. Et aussi, dans le domaine de la crise suicidaire, regardez la proportion. 3/4 des décès par suicide sont des hommes. C'est-à-dire que les hommes, quand ils se suicident, ils réussissent. Et c'est donc la menace suicidaire chez un homme est d'autant plus à prendre au sérieux lorsqu'elle a été construite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les tendances chez la femme sont un petit peu différentes. Elle va être plus marquée par la tristesse, les pleurs, les plaintes, sentiment de culpabilité, voilà, j'arrive plus rien à faire à la maison, je peux plus m'occuper de vous, la fatigue, l'incapacité de faire face à ses tâches, la perte de désir sexuel qui intervient très vite dans le parcours de la femme, et des troubles de l'appétit, soit en plus, soit en moins, mais ça c'est plus particulier à la femme. Elle accepte plus volontiers de consulter. Elle ira souvent d'elle-même voir le médecin et elle acceptera de se traiter. Elle est beaucoup plus disciplinée dans la prise de son traitement s'il en est besoin. Elle fait plus de tentatives de suicide, mais avec moins de décès. Ce n'est pas qu'elles ne savent pas faire, mais la tentative de suicide a peut-être plus le sens d'appel au secours, d'appel à l'aide, d'appel à l'attention de la part d'un mari qui souvent, justement, est bloqué derrière ses idées reçues et qui refuse de reconnaître la réalité. Et puis, bien entendu, vous imaginez bien que quand quelqu'un dans un couple est dans cette situation, il y a un impact familial qui est global. L'homme dépressif a un plus fort impact négatif sur son couple que la femme dépressive n'en a. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu compliqué à comprendre, enfin, pas tant que ça. Les statistiques montrent que quand une femme est dépressive, elle entraîne rarement son mari dans la dépression. Par contre, quand un mari est dépressif, dans un cas sur trois, il entraîne sa femme dans la dépression. C'est vous dire l'impact que l'homme dépressif a dans sa famille, et donc la nécessité de prendre au sérieux cette réalité qui peut arriver à chacun d'entre nous, bien entendu. Et le déni, qui est une source de grave incompréhension. Mais ça fait un moment que je te dis que tu ne vas pas bien, que tu devrais consulter, et tu ne bouges pas. Et ça aboutit à des incompréhensions. Et regardez cette statistique, 3 ans après un épisode dépressif dans un couple, il y a 8 fois plus de divorces que dans des couples qui n'ont pas connu l'expérience dépressive. C'est vous dire l'impact, 8 fois plus de divorces dans les 3 années qui suivent un épisode dépressif chez un homme. L'impact spirituel de la dépression. Et ça, je pense, c'est très important, et je termine, je crois, là-dessus, pour cette première partie. Le dépressif, on a dit tout à l'heure, il a une perte de capacité de mémorisation, de porter son attention, de se concentrer sur quelque chose, de comprendre et de le retenir, d'imprimer en quelque sorte. Et vous comprenez bien que dans sa vie spirituelle personnelle, tout est impacté. La lecture de la Bible est impactée, la prière est impactée, le ressenti de communion avec Dieu, le sentiment d'abandon. On l'a vu dans les textes bibliques. Que certains auteurs en ont témoigné de ce sentiment d'abandon, de rupture de communion. Et ce n'était pas simplement forcément à cause du péché, simplement. Lorsqu'un dépressif, vous lui dites, écoute, t'as qu'à lire la Bible et tu verras, ça ira mieux. Lis les psaumes. Vous êtes en train de dire à un amputé des deux jambes, marche ou cours même. Parce que la personne qui va essayer de le faire, elle va vous décrire son expérience. Alors ça, je l'ai entendu, mais de multiples fois. Je lis trois versets, je m'arrête, je me souviens plus ce que j'ai lu, je reviens, je recommence, je relis ces trois versets. Ou je, si je vais un peu plus loin, à la fin, je sais absolument plus ce que j'ai lu. Ça n'a pas imprimé, quoi. Lorsque la personne n'a pas encore été amenée à un état où elle peut lire. Bien entendu qu'à un moment donné, la parole de Dieu va faire du bien, on va le voir un peu plus loin. Mais il faut qu'il y ait eu ce déclic qui fait que le fonctionnement psychique naturel, qui consiste à arriver à reconnaître des caractères, les traduire dans des mots qui ont du sens à notre esprit et qui ensuite vont prendre sens par rapport à notre vécu spirituel, puisse se faire. Et lorsque tous ces circuits sont perturbés, eh bien, c'est pas possible. La prière, c'est la même chose. Les gens, on leur dit, mais écoute, t'as qu'à prier, tu verras, ça ira mieux, le Seigneur va répondre à tes prières. Mais une personne dépressive, elle va vous dire, mais quand je prie, j'ai l'impression de prier complètement dans le vide, ça dépasse pas le plafond, Dieu ne m'entend pas. Dieu est loin, Dieu m'a abandonné. Dieu n'est pas loin, bien entendu. Dieu est proche de celui qui souffre. Mais c'est le sentiment que nous avons, la façon dont nous ressentons la présence de Dieu, qui est altérée par la dépression. Le dépressif, il vit avec ce sentiment de solitude et d'isolement, de rejet, etc. Donc, il a le même sentiment vis-à-vis de Dieu. Ce sentiment d'abandon, d'être seul face à son problème, malgré tout ce qu'on peut lui dire. Au niveau de la vie communautaire, il ne faut pas vous étonner, c'est des gens pour qui engager une discussion ou faire face simplement à un groupe de 10 personnes est une épreuve, véritablement. Et donc, il ne faut pas s'étonner que ces personnes n'aient pas envie et n'aient pas la force, surtout, de venir dans la communauté des frères et sœurs de l'Assemblée, et que la communion de l'Assemblée doit se manifester vis-à-vis de ces personnes dans l'autre sens, des personnes qui aillent vers elles. Peu de personnes, on y viendra un petit peu à la fin. La fuite des relations, la perte de confiance dans les personnes, le sentiment de culpabilité, d'être un cas, d'être un boulet pour l'Assemblée, etc. Tout ça aussi, c'est le vécu spirituel du dépressif. Je crois que je m'arrête là dans cette première partie. Oui, voilà. Alors, merci. Est-ce qu'il y a... On n'aura pas beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de matière pour des questions. Peut-être qu'il y a une question.
Est-ce qu'un chrétien peut se suicider?
Alors, j'y viendrai dans la partie suivante où j'aborderai des aspects particuliers de la dépression. Un aspect particulier, d'accord? Où il y a une totale perte de contrôle, c'est-à-dire que ça va bien au-delà de simplement « je ne peux pas lire et je ne retiens pas », mais une perte de contrôle complet de ses conduites, de ses décisions, et en particulier de la sauvegarde d'autrui, quoi, de la préservation de soi, que l'on a en chacun de nous. Chacun de nous, si je vous menace avec un couteau, va me dire « non, attends, ça ne me touche pas », parce qu'on veut sauvegarder notre personne, notre corps. Et donc, chez certains, ça peut atteindre un point tel, les perturbations psychiques, qu'il y a cette perte de contrôle. Et je répondrai complètement à la question un peu plus loin. Tout de suite après. Voilà. Une autre question, peut-être, puisque celle-ci était quand même un peu téléphonée. Pierre ?
Oui, la vie de sanctification, donc on parle dans la Bible, et l'élévation sexuelle, etc. Oui, là, est-ce qu'on peut faire la différence avec la dépression ?
Alors, je ne vois pas bien ta question. La vie de sanctification, c'est ce à quoi nous sommes tous appelés en tant que chrétiens. Et c'est quelque chose, un aspect de la vie chrétienne, une dimension de la vie chrétienne qu'un dépressif a particulièrement du mal à comprendre et à vivre. D'accord ? Mais il n'y a pas de relation autre avec la dépression ni avec la vie sexuelle. La vie sexuelle est un don de Dieu pour les couples mariés que Dieu a voulu faire. Et ce don de Dieu qui est vécu dans l'harmonie, dans la joie, dans l'épanouissement et dans la sainteté, un dépressif n'a plus la capacité de la vivre et en particulier plus aucune capacité d'y trouver du bonheur et du plaisir.
C'est voilà. Pour les célibataires, je vous dis.
Pour les célibataires, on en reste à ce qui est dit dans la parole de Dieu, bien entendu, concernant cet aspect de la vie chrétienne. Mais c'est un autre sujet, ça.